La vie regorge de grandes questions, pas vrai? Sort ou destinée? Paradis ou enfer? Amour ou attirance? Raison ou pulsion? Beatles ou Stones? Pour moi, ça a toujours été les Stones. Une fois qu'ils ont pris la place de Jupiter dans le système solaire de la musique pop, les Beatles sont tout simplement devenus trop doux. Ma femme avait l'habitude d'appeler Sir Paul McCartney « regard de chien battu » et ça résume assez bien ce que je ressentais. Mais les Beatles du début, ah, ils jouaient du vrai rock et j'écoute toujours les vieux morceaux, des reprises pour la plupart, avec amour. Parfois, je suis même électrisé au point de me lever pour danser un peu. L'une de mes préférées était leur version de Bad Boy, le tube de Larry Williams, avec John Lennon chantant d'une voix fiévreuse et éraillée. J'aimais tout particulièrement la punchline qui exhortait Junior à bien se conduire. « Now, Junior, behave yourself !» Et maintenant, Junior, tiens-toi bien. Et un jour, j'ai décidé que je voulais écrire l'histoire d'un méchant petit garçon qui emménage dans le quartier. Pas un garçon qui serait le rejeton du diable, ni un garçon qui serait possédé par une espèce de vieux démon comme dans L'Exorciste. Non, un gosse juste méchant pour le plaisir d'être méchant, mauvais jusqu'à la moelle, la personnification de tous les sales gosses qui ont jamais existé. Je le visualisais en short avec un petit bonnet à hélice sur la tête. Je le voyais causant toujours du tort autour de lui et ne se conduisant absolument jamais bien. Voici l'histoire qui s'est construite autour de ce petit garçon. Une version maléfique de Sluggo, le copain de Nancy, dans la page des bandes dessinées du journal du dimanche. Une édition numérique a été publiée en exclusivité en France et en Allemagne, où Bad Boy figurait sans nul doute au répertoire du Star Club des Beatles. Sale gosse. 1. La prison était située à 30 km de la petite ville la plus proche, sur une étendue de prairies désertes où le vent soufflait pratiquement en continu. Dressé sur l'horizon, le bâtiment principal était une horreur en pierre perpétrée contre le paysage au début du XXe siècle. Sur ses deux flancs, des cellules en béton avaient poussé l'une après l'autre au cours des 45 dernières années, principalement grâce au flot d'argent fédéral qui avait commencé à couler durant les années Nixon et ne s'était jamais tari depuis. Un peu à l'écart du corps principal de la prison, s'élevait un bâtiment plus petit. Les détenus appelaient cette annexe le manoir de l'aiguille. Délimité par une forte clôture grillagée, un corridor extérieur de 40 mètres de long sur 6 de large saillait sur l'un des côtés, la basse-cour. Chacun des détenus du manoir, actuellement au nombre de 7, avait droit à 2 heures de basse-cour par jour. Certains marchaient, d'autres couraient. La plupart restaient simplement assis, adossés au grillage, à fixer le ciel ou à observer le petit versant herbeux qui barrait le paysage à 400 mètres en direction de l'est. Des fois, il y avait quelque chose à regarder. Le plus souvent, il n'y avait rien. Presque toujours, il y avait le vent. Pendant 3 mois de l'année, la basse-cour était étouffante. Le reste du temps, il y faisait froid. Et l'hiver, elle était glaciale. Généralement, les détenus demandaient à sortir quand même. Après tout, il y avait le ciel à contempler. Les oiseaux. Parfois des chevreuils pâturant le long de la crête de ce petit versant herbeux, libres d'aller où bon leur semblait. Au centre du manoir de l'aiguille se trouvait une pièce carrelée contenant une table en forme de Y ainsi qu'un équipement médical rudimentaire. L'un des murs était percé d'une fenêtre aux rideaux tirés. Lorsqu'on les ouvrait, ils dévoilaient une salle d'observation pas plus grande que le salon d'un modeste pavillon de banlieue et nantie d'une douzaine de chaises en plastique rigide d'où les invités avaient vu sur la table en forme de Y. Sur le mur était placardé l'avertissement suivant. Silence. Pas un mot, pas un geste durant la procédure. Il y avait exactement 12 cellules dans le manoir de l'aiguille. Au bout de la rangée de cellules, un poste de garde. Après le poste de garde, une salle de contrôle occupée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, après la salle de contrôle, un parloir dans lequel la table du détenu était séparée de la table du visiteur par une épaisse paroi en plexiglas. Il n'y avait pas de téléphone. Les détenus conversaient avec leurs proches ou leurs représentants légaux à travers un cercle de petits trous ménagés dans le plexiglas, comme dans un combiné de téléphones démodés. Leonard Bradley s'assit de son côté de ce dispositif de communication et ouvrit sa mallette. Il déposa un bloc-notes à feuilles jaunes sur la table ainsi qu'un stylo bille. Puis, il attendit. À sa montre, l'aiguille des minutes effectua 3 tours de cadran et elle entamait le 4e lorsque la porte menant aux régions internes du manoir de l'aiguille s'ouvrit dans un bruyant claquement de verrou. Bradley connaissait tous les surveillants à présent. Celui-ci était MacGregor, pas un mauvais bougre. Il tenait George Hallis par le bras. Hallis avait les mains libres, mais une chaîne comme un serpent d'acier raclait le sol entre ses chevilles. Par-dessus sa combinaison orange de prisonnier, il portait une large ceinture de cuir, et lorsqu'il s'assit de son côté de la vitre, MacGregor attacha une autre chaîne entre un anneau métallique riveté à cette ceinture et un anneau métallique fixé au dossier de la chaise. Il la verrouilla, vérifia sa solidité d'une secousse et salua Bradley de deux doigts levés. « Bonjour, maître. »«
Bonjour, monsieur MacGregor. »
Hallis ne dit rien.
« Vous connaissez la procédure, dit MacGregor, aussi longtemps que vous voulez aujourd'hui, ou du moins aussi longtemps que vous pouvez le prendre. »«
Je sais. »
D'ordinaire, les consultations entre avocats et clients étaient limitées à une heure. Un mois avant le petit voyage organisé du client dans la pièce à la table en forme de Y, le temps de visite était allongé à 90 minutes, au cours desquelles l'avocat et son protégé, rendus de plus en plus nerveux par cette valse de la mort mandatée par l'État, discutaient à propos d'un nombre réduit de recours merdiques. La dernière semaine, il n'y avait plus aucune limitation de temps. Ceci était valable aussi bien pour les proches que pour les avocats. Mais la femme de Hallis avait divorcé quelques semaines seulement après sa condamnation, et le couple n'avait pas d'enfants. Exception faite de Len Bradley, Hallis était seul au monde, et il avait semblé faire peu de cas des appels et retards consécutifs de procédure que Bradley lui avait suggérés. Jusqu'à aujourd'hui. « Il vous parlera », lui avait assuré MacGregor le mois dernier, après une brève visite de 10 minutes, ponctuée surtout, côté Hallis, de « non, non et encore non ». Quand le jour approchera, il vous parlera sans s'arrêter. C'est qu'il commence à avoir peur, figurez-vous. Ils en oublient qu'ils se voyaient entrer dans la salle d'injection la tête haute et les épaules carrées. Ils commencent à réaliser qu'ils sont pas dans un film, qu'ils vont vraiment mourir. Et là, ils veulent tenter tous les recours possibles. Hallis ne semblait pas avoir peur pourtant. Il paraissait lui-même, un petit bonhomme qui se tenait mal, le teint cireux, la chevelure clairsemée et des yeux qu'on aurait dit comme peints sur un visage de poupée. Il ressemblait à un comptable, ce qu'il était dans sa vie d'avant. Un comptable ayant perdu tout intérêt pour les chiffres qui naguère avaient été si importants pour lui.
« Bonne visite, les gars !» leur dit MacGregor.
Puis il se dirigea vers une chaise dans un coin de la pièce. Là, il s'assit, alluma son iPad et se colmata les oreilles avec de la musique. Sans les quitter un seul instant des yeux, cependant. Les trous de l'hygiophone étaient trop petits pour y faire passer ne serait-ce qu'un crayon, mais une aiguille n'était pas exclue.
« Qu'est-ce que je peux faire pour vous, George ?»
Hallis ne répondit pas tout de suite. Il examinait ses mains, petites et faibles d'aspect. On n'aurait absolument pas dit des mains d'assassin. Puis il leva la tête.
« Vous êtes un type bien, monsieur Bradley. »
Pris au dépourvu, Bradley ne sut que répondre. Hallis confirma de la tête, comme si son avocat avait contesté ses dires.
« Si, si, vous l'êtes.
Vous avez persisté même quand je vous ai clairement fait comprendre que je voulais renoncer à toutes les procédures et laisser les choses suivre leur cours. Il n'y a pas beaucoup de commis d'office qui feraient ça.
La plupart diraient « Ok, comme tu veux »
et passeraient au raté suivant que le juge leur aurait refilé. C'est pas ce que vous avez fait. Vous m'avez informé de toutes les démarches que vous envisagiez et quand je vous ai dit de ne pas vous fatiguer, vous y êtes allé quand même. Sans vous, je serais mort et enterré depuis déjà un an.
On n'a pas toujours ce qu'on veut, George.
Hallis esquissa un sourire.
Ça, personne ne le sait mieux que moi. Mais ça n'a pas été si mauvais que ça. Je le reconnais aujourd'hui. Surtout grâce aux promenades dans la basse-cour. J'aime la promenade. J'aime sentir le vent sur mon visage, même quand il est froid. J'aime sentir l'odeur de la prairie, de l'herbe, et voir briller la lune dans le ciel en plein jour. Et les chevreuils. Des fois, ils viennent gambader sur la crête là-haut et se courir après. J'aime ça. Ça me fait rire tout haut des fois. La vie peut être belle. Ça peut valoir le coup de se battre pour elle.
Certaines vies, oui. Pas la mienne. Mais j'apprécie la façon dont vous vous êtes quand même battu pour moi. Je vous remercie pour votre dévouement. C'est pourquoi je vais vous dire ce que je n'ai jamais dit à la cour. Et pourquoi j'ai toujours refusé de faire appel, même si je ne pouvais pas vous empêcher de le faire pour moi.
Un appel sans la participation de l'appelant ne pèse pas bien lourd dans la balance de cette juridiction d'État, ni des juridictions les plus hautes.
Vous avez aussi été très généreux dans vos visites, et je vous en remercie également. Peu de gens accepteraient de témoigner de la bonté à un homme reconnu coupable du meurtre d'un enfant, mais vous l'avez fait. » Encore une fois, Bradley resta sans voix. Hallis en avait déjà dit plus au cours de ces 10 dernières minutes qu'en 34 mois de visite. « Je ne peux pas vous rétribuer, mais ce que je peux faire, c'est vous raconter pourquoi j'ai tué ce gosse. Vous n'allez pas me croire, mais je vais vous le raconter quand même, si vous voulez bien m'écouter. »
Hallis épia le visage de Bradley à travers les petits trous dans le plexiglas rayé et sourit.
« Vous voulez, hein? Parce qu'il y a des détails qui vous chiffonnent, qui n'ont pas chiffonné l'accusation, mais vous, si.
Eh bien, certaines questions me sont venues, oui. Mais je l'ai tué. J'avais un Colt 45 et je l'ai vidé dans la peau de ce gosse. Il y avait plein de témoins et vous savez bien que toutes les procédures d'appel n'auraient fait que repousser l'inévitable de 3 ans, 5, 6 au plus, même si je m'étais investi pleinement. Les questions que vous vous posez pâlissent devant l'écrasante réalité du meurtre avec préméditation. J'ai pas raison?
Oui, mais nous aurions pu plaider la capacité mentale réduite au moment des faits.
Bradley se pencha en avant. Et c'est encore possible. Il n'est pas trop tard, même maintenant. Pas totalement.
L'aliénation mentale est rarement défendable après les faits, monsieur Bradley.
Il ne m'appellera jamais Len, pensa Bradley, même après tout ce temps. Il ira à la mort en m'appelant monsieur Bradley.
Rarement ne veut pas dire jamais, George. Non, mais je ne suis pas fou aujourd'hui. Et je n'étais pas fou lors des faits. Je n'ai jamais été plus sain d'esprit, en fait. Êtes-vous sûr de vouloir entendre ce que je n'ai pas voulu dire au tribunal? Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir.
Bien sûr que je veux l'entendre, dit Bradley.
Il prit son stylo, mais n'en eut finalement pas l'usage. Sans prendre aucune note, il se contenta d'écouter, hypnotisé, le récit que lui fit George Hallis avec son léger accent du Sud.
2. Ma mère, qui avait été en bonne santé toute sa courte vie, est morte d'une embolie pulmonaire 6 heures après ma naissance. C'était en 1969, sans doute une cause génétique parce qu'elle n'avait que 22 ans. Mon père avait 8 ans de plus qu'elle, c'était un homme bien et un bon père. Il était ingénieur des mines et jusqu'à mes 8 ans, il a travaillé principalement dans la région sud-ouest. Nous avions une gouvernante qui nous accompagnait partout. Elle s'appelait Nonna McCarthy, mais moi je l'appelais Mama Nanny. Elle était noire. J'imagine qu'il couchait avec elle, même si, à chaque fois que je venais me glisser dans son lit, ce que je faisais souvent le matin, Mama Nanny était toujours seule. Qu'il couche avec elle ou pas, peu m'importait. Je ne savais même pas ce qu'être noir signifiait. Nanny était la bonté même. Elle me préparait mes casse-croûtes pour l'école, elle me lisait des histoires le soir avant d'aller me coucher quand mon père n'était pas là pour le faire, et pour moi, c'était tout ce qui comptait. Ce n'était pas le schéma familial traditionnel, je devais bien m'en rendre compte, mais j'étais heureux comme ça. En 1977, nous avons déménagé dans l'Est, Talbot, Alabama, pas loin de Birmingham. Ville de garnison, Fort John Huey, mais région minière aussi. Mon père avait pour mission de rouvrir les mines Good Luck, numéro 1, 2 et 3, et de les mettre aux normes environnementales, ce qui impliquait le percement de nouveaux puits et la mise en place d'un nouveau système de traitement des déchets pour éviter les rejets polluants dans les cours d'eau locaux. On habitait une jolie petite banlieue dans une maison de fonction prêtée par la société Good Luck. Mama Nanny s'y plaisait, parce que mon père avait transformé le garage en 2 pièces habitables pour elle. J'imagine que ça faisait un peu moins jaser. J'aidais papa aux travaux le week-end, je lui tendais les planches, les clous, tout ça. C'était le bon temps pour nous. J'ai pu rester dans la même école pendant 2 ans, assez longtemps pour me faire des amis et connaître un peu de stabilité. Une de mes amies était la petite voisine d'à côté. Dans un feuilleton télé ou un magazine, nos destins auraient été tout tracés. On aurait échangé notre premier baiser dans une cabane en haut d'un arbre, on serait tombés amoureux, et une fois au lycée, on serait allé au bal de fin d'année ensemble. Mais ça ne devait pas se passer comme ça pour Marley Jacobs et moi. Papa ne m'avait jamais laissé croire que nous resterions à Talbot. Il disait qu'il n'y a rien de plus cruel que d'entretenir de faux espoirs chez un enfant. Oh, peut-être que je pourrais aller à l'école primaire Mary Day jusqu'en 7e, peut-être même passer en 6e. Mais Good Luck et papa, ça finirait un jour, et il nous faudrait repartir.
Peut-être pour retourner au Texas ou au Nouveau-Mexique. Peut-être pour monter jusqu'en Virginie-Occidentale ou dans le Kentucky. Je comprenais bien tout ça. Et Maman Nanny aussi. Et on l'acceptait. C'était mon père le chef. C'était un bon chef et il nous aimait. Ce n'est que mon humble avis, mais franchement, je doute qu'on puisse trouver mieux. La deuxième raison, c'était Marley elle-même. Elle était, disons que de nos jours, le terme officiel serait « retardé mental », mais à l'époque, les gens du quartier disaient juste qu'elle était simple d'esprit. On pourrait trouver ça méchant, Monsieur Bradley, mais en y repensant, je trouve ça vraiment juste, poétique même. C'est comme ça qu'elle voyait le monde, simplement. Et quelquefois, souvent même, c'est peut-être mieux. Là encore, ce n'est que mon humble avis. On était en classe de 9e quand on s'est connus, sauf que Marley avait déjà 11 ans. On est passé en 8e tous les deux, mais dans le cas de Marley, c'était juste pour qu'elle suive le mouvement. C'est comme ça que ça marchait dans des petits endroits comme Talbot à l'époque. Et puis, c'était pas comme si elle était l'idiote du village. Elle savait un peu lire et faire quelques additions, mais la soustraction la dépassait complètement. J'ai essayé de la lui expliquer de toutes les façons que j'ai pu imaginer, mais il n'y avait pas moyen. On s'est jamais embrassé dans un arbre, on s'est jamais embrassé du tout, mais on se tenait toujours par la main pour aller à pied à l'école le matin et au retour l'après-midi. On devait avoir l'air franchement comique, moi comme une crevette, à côté de Marley, déjà grande et costaud. Elle me dépassait de 10 bons centimètres et elle avait déjà ses petits seins qui pointaient. C'est elle, pas moi, qui voulait qu'on se tienne la main, mais je m'en fichais. Je me fichais aussi qu'elle soit simple d'esprit. Avec le temps, peut-être que ça m'aurait aussi ennuyé. Mais je n'avais que 9 ans quand elle est morte, un âge où les gosses acceptent encore les choses telles qu'elles sont. Je trouve que c'est un don du ciel. Si tout le monde était simple d'esprit, pensez-vous qu'on aurait encore des guerres? Moi pas. Si on avait habité 1 kilomètre plus loin, on aurait pris le bus, Marley et moi, mais comme on était tout près de Mary Day, 6 ou 8 pâtés de maison, on y allait à pied. Maman Nanny me donnait mon casse-croûte, elle aplatissait une dernière fois l'épi qui se dressait sur ma tête et m'accompagnait à la porte en disant « Tu seras bien sage, mon Georgie ». Marley m'attendait devant chez elle, en robe ou en salopette, avec des couettes nouées par des rubans, sa boîte à déjeuner à la main. Je la revois encore, cette boîte à déjeuner. Elle était décorée d'un portrait de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Sa mère restait sur le pas de la porte et elle me disait « Et bonjour, Georgie ». Et je lui disais « Et bonjour, Madame Jacobs ». Et elle « Vous serez bien sages, les enfants ». Et Marley « On sera bien sages, maman ». Et elle me prenait la main et on s'en allait le long du trottoir. On avait les premiers pâtés de maison, rien que pour nous. Mais ensuite, les autres gosses commençaient à débouler de Rudolph Acres. C'est là que beaucoup de familles de militaires habitaient. Les logements étaient bon marché. Et Fort Huey n'était qu'à 8 kilomètres au nord en passant par la 78. On devait être vraiment rigolos tous les deux. Le moustique avec son sac à casse-croûte, donnant la main à l'asperge qui faisait rebondir sa boîte à déjeuner et Steve Austin contre son genou croûteux. Mais je n'ai pas le souvenir que nos petits camarades se soient jamais moqués de nous ou nous aient taquinés. Oh, ils ont bien dû le faire une fois ou l'autre, sinon les gosses ne seraient pas des gosses. Mais ça devait être plutôt gentil et sans conséquence. Le plus souvent, une fois que le trottoir grouillait d'écoliers, on entendait plutôt les garçons s'écrier « Hé, Georges, si on se faisait une partie de balle après l'école !» Et les filles « Hé, Marley, t'as mis des jolis rubans dans tes cheveux aujourd'hui !» Personne n'a jamais été méchant avec nous. Personne, avant ce sale gosse. Un jour, après l'école, Marley n'est pas sortie. Ça ne devait pas être longtemps après mon 9e anniversaire, parce que j'avais mon tap ball avec moi. C'est Maman Nanny qui me l'avait offert. Mais il n'a pas fait long feu. Je tapais trop fort et l'élastique en caoutchouc a fini par lâcher. Mais je l'avais encore ce jour-là. Et je m'amusais à taper la balle d'avant en arrière en l'attendant. Personne ne m'avait jamais dit que je devais l'attendre. Je le faisais naturellement. Et puis, elle est enfin sortie, en pleurant. Elle avait le visage tout rouge et de la morve lui coulait du nez. Je lui demande ce qu'elle a et elle me dit qu'elle n'a pas retrouvé sa boîte à déjeuner. Comme d'habitude, elle me raconte, elle a mangé avec à midi, et puis comme d'habitude, elle l'a rangée sur l'étagère du vestiaire à côté de la boîte Barbie Rose de Cathy Morse. Mais quand la sonnerie pour rentrer à la maison a retenti, sa boîte avait disparu. « C'est un quelqu'un qui me l'a volé !» qu'elle me dit. « Mais non, voyons, quelqu'un a dû la déplacer. Elle sera là demain matin, je lui réponds. Alors, arrête de pleurnicher et calme-toi maintenant. T'es toute cochonnée.
Maman Nani veillait toujours à ce que j'aie un mouchoir sur moi quand je quittais la maison. Mais comme tous les autres garçons, je m'essuyais le nez sur ma manche parce qu'un mouchoir ça faisait un peu fifi. Il était donc tout propre et bien plié quand je l'ai sorti de la poche arrière de mon pantalon pour essuyer la morve sur sa figure. Là, Marley s'arrête de pleurer et me sourit. Ça chatouille, qu'elle me dit. Puis elle me prend la main et on s'en va vers la maison, comme on le faisait tous les jours. Elle jacassant comme un moulin à paroles. Ça ne me dérangeait pas parce que, au moins, elle en avait oublié sa boîte à déjeuner. Les autres enfants ont pas tardé à disparaître, même si on pouvait toujours les entendre rigoler et chahuter sur la route de Rudolph Acres. Marley, comme à son habitude, n'arrêtait pas de parler, de tout et de rien, ce qui lui passait par la tête. Moi, je laissais ses paroles glisser sur moi en plaçant parfois un « ouais », un « hum » ou un « c'est vrai », mais en pensant surtout comment, une fois à la maison, je sauterais dans mon vieux pantalon en velours côtelé, et si Maman Nani n'avait aucune corvée pour moi, j'attraperais mon gant de baseball pour courir rejoindre les autres sur le terrain de jeu d'Oak Street, où on improvisait des parties tous les jours jusqu'à ce que les mamans crient à l'heure du souper. Et là, on entend quelqu'un aboyer dans notre direction de l'autre côté de School Street. Sauf qu'on aurait plutôt dit un âne en train de braire qu'un chien qui aboyait.
« Ouh, les amoureux, George et Marley !»
On s'arrête et on voit un petit gosse debout près d'un bosquet de micocouliers de l'autre côté de la rue. Je l'avais jamais vu avant, ni à Mary Day, ni ailleurs. Il mesurait pas plus d'1m30 et il était rondouillard. Il portait un short gris qui lui descendait jusqu'aux genoux et un pull vert à rayures orange qui boudinait son ventre grassouillet et ses petits seins de garçon. Il avait un bonnet sur la tête, de ces bonnets ridicules avec une hélice en plastique fixée sur le dessus. Sa figure était potelée et dure à la fois, et ses cheveux de la même couleur que les bandes oranges de son pull, du genre rouquin que personne n'aime. Et il rebiquait dans tous les sens au-dessus de ses oreilles en feuilles de chou. Son nez faisait juste une petite tache ronde sous ses yeux, les plus verts et les plus luisants que j'ai jamais vus. Il avait une petite bouche de cupidon boudeuse, avec des lèvres tellement rouges qu'on aurait dit qu'il s'était mis du rouge à lèvres de sa maman. C'en était pas, bien sûr. J'ai vu des tas de rouquins avec des lèvres rouges comme ça, mais jamais aucun avec des lèvres aussi rouges que cet horrible garçon-là. On est resté planté à le regarder. Le moulin parole de Marley s'est arrêté. Elle avait des lunettes œil de chat avec des montures roses, et derrière ses verres, ses yeux ahuris étaient grands comme des soucoupes. Et le petit gosse, il devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans, il avance ses grosses lèvres rouges et il se met à faire des bruits de bisous. Puis il met ses mains sur ses fesses et il commence à se trémousser d'avant en arrière devant nous.
« George et Marley qui baissent au lit !»
Il braillait comme un âne. Nous, on le fixait, sidéré.
« T'as intérêt à mettre une capote pour te la taper !»
il nous crie, avec un petit sourire impudent sur ses lèvres rouges.
« À moins que tu veuilles te retrouver avec une chier de débile manteau comme elle !»
« Tu la fermes, je lui dis. »«
Sinon quoi ?» il me dit.
« Sinon c'est moi qui te la ferme, » je lui réponds. Et je ne plaisantais pas. Mon père aurait été furieux s'il avait su que je menaçais de frapper un plus petit que moi, mais ce gosse-là n'avait pas le droit de dire des choses comme ça. Il ressemblait à un petit garçon, mais c'était pas des paroles de petit garçon qui sortaient de sa bouche.
« Suce ma bite, tête de cul !» il me fait.
Et puis il disparaît derrière les micocouliers. J'avais envie de traverser, mais Marley me serrait la main fort, à me la broyer. « J'aime pas ce garçon, » elle me dit. Je lui dis que moi non plus, je l'aime pas, mais qu'il faut pas faire attention. Rentrons à la maison. Mais avant qu'on puisse se remettre en route, le gosse ressort de derrière les micocouliers et il tient à la main la boîte à déjeuner Steve Austin de Marley. Il la brandit.
« Hé, neuneu, t'as perdu quelque chose ?»
il lui crie. Et il se met à rigoler et son rire lui déforme la figure. On aurait dit celle d'un cochon. Il renifle la boîte et il dit
« Ça doit être la tienne, parce qu'elle sent la chatte de débile mental. Rends-moi ça, c'est à moi !»
se met à hurler Marley. Et là, elle me lâche la main. J'ai essayé de la rattraper, mais elle m'a échappé. On avait la paume toute moite de sueur.
« Viens la chercher !»
il lui fait en la narguant avec la boîte. Avant de vous raconter la suite, il faut que je vous parle de Mrs. Peckham. C'était l'institutrice de 11e à Mary Day. Moi, je l'ai jamais eu parce que j'avais fait mon année de 11e au Nouveau-Mexique,
mais presque tous les enfants de Talbot l'avaient eu, Marley y compris, et tous l'adoraient. Même moi je l'adorais, et pourtant je l'avais que pendant les récréations, quand c'était son tour de nous surveiller. Quand on jouait au kickball, les filles contre les garçons, elle faisait toujours lanceur pour l'équipe des filles. Des fois, elle feintait avec la balle en la passant derrière son dos, et elle faisait rire tout le monde. C'est le genre de maîtresse dont on se souvient encore 40 ans après, parce qu'elle savait faire tenir tranquille et intéresser même les élèves les plus insupportables, tout en restant gentille et joviale. Elle avait une vieille Buick Roadmaster bleu ciel, et on s'amusait à l'appeler Mémim Peckham parce qu'elle ne dépassait jamais les 50 km/h, raide comme la justice derrière son volant, les yeux plissés par la concentration. Bien sûr, on ne la voyait conduire que dans le quartier, qui était une zone scolaire, mais je parie qu'elle conduisait exactement pareil sur la 78, et même sur l'autoroute. Elle était prudente et vigilante. Elle n'aurait jamais fait de mal à un enfant, du moins pas exprès. Donc, Marley se précipite sur la route pour aller récupérer sa boîte. L'affreux Jojo rigole et la lui lance. La boîte tombe par terre et s'ouvre. Le thermos de Marley roule sur la chaussée. Et c'est là que je vois la Buick bleu ciel arriver et que je crie à Marley de faire attention. Mais j'étais pas tellement inquiet parce que c'était rien que Mémé Peckham et qu'elle était encore à un pâté de maison de nous et qu'elle roulait toujours comme un escargot.
« T'as lâché sa main, donc maintenant c'est ta faute !»
C'était le sale gosse. Il me regardait en souriant et je voyais toutes ses petites dents blanches sous ses lèvres retroussées. Et il rajoute
« T'arrives à rien garder, trou du cul !»
Il me tire la langue et me fait un gros bruit de paix. Et puis, il disparaît à nouveau derrière les micocouliers. Madame Peckham m'a déclaré que sa pédale d'accélérateur s'était bloquée. Je ne sais pas si la police l'a cru. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'a plus jamais enseigné à Mary Day. Alors, Marley se baisse, ramasse son thermos et le secoue.
« Il est tout cassé à l'intérieur !» elle dit,
et elle se met à pleurer. J'avais bien entendu le bruit de ferraille qu'il faisait. Elle se baisse encore pour ramasser la boîte, et c'est là que la pédale de Madame Peckham a dû se bloquer, parce que le moteur a grondé, et la Buick a carrément bondi en avant, comme un loup sur un lapreau. Marley s'est redressée, sa boîte à déjeuner dans une main serrée contre sa poitrine, et son thermos dans l'autre. Elle a vu la voiture arriver, mais elle n'a pas bougé. Peut-être que j'aurais pu me jeter sur elle et la sauver, ou peut-être que si j'avais couru sur la route, moi aussi je me serais fait renverser. Je ne sais pas, parce que j'étais aussi paralysé qu'elle. Je suis resté cloué sur place, même quand la voiture l'a renversée, je n'ai pas bougé. Pas même la tête. Je l'ai seulement suivie des yeux quand elle s'est envolée et qu'elle est retombée sur sa pauvre tête de simplette. Aussitôt après, j'ai entendu crier « C'était Madame Peckham !» Elle descend de sa voiture, elle tombe, elle se relève, elle a les genoux en sang et elle court vers Marley, allongée sur la route avec du sang qui lui sort de la tête. Alors moi aussi je cours. Je m'enfuis. Et quand je suis assez loin pour pouvoir regarder derrière le bosquet de micocouliers, je tourne la tête. Et il n'y a personne. 3. George Hallis se tut et couvrit son visage de ses mains. Enfin, il les retira. « Ça va, George ?» demanda Bradley. « Oui, juste un peu soif. J'ai pas l'habitude de parler autant. On n'a pas tellement l'occasion de faire la causette dans le couloir de la mort. » Bradley fit signe à MacGregor. Le maton retira ses écouteurs et se leva. « Fini, George ?» Hallis secoua la tête. « J'ai à peine commencé. »« Mon client désirerait un verre d'eau, Monsieur MacGregor, » dit Bradley. « C'est possible ?» MacGregor se dirigea vers la porte de la salle de contrôle et parla brièvement dans l'interphone. Bradley en profita pour interroger Hallis sur la taille de l'école Mary Day. Hallis haussa les épaules. « Oh, petite ville, petite école, pas plus de 150 gamins, je dirais, de la 11e à la 7e. » La porte de la salle de contrôle s'ouvrit. Une main apparut, tenant un gobelet en papier. MacGregor le prit et l'apporta à Hallis, qui but avidement, puis le remercia. « Y a pas de quoi, » dit MacGregor. Il retourna à sa chaise, remit ses écouteurs et se replongea dans sa musique. Et ce gosse, ce sale gosse, c'était un petit rouquin, un vrai rouquin?
Plutôt, oui. Presque orange fluo.
Donc, s'il avait fréquenté la même école que vous, vous l'auriez reconnu?
Oui.
Mais vous ne l'avez pas reconnu, et Marley non plus?
Non.
Je l'avais jamais vu à l'école avant, et je l'y ai jamais vu après. Dans ce cas, comment a-t-il pu se procurer la boîte à déjeuner de la petite Marley?
J'en sais rien.
Mais c'est pas ça le plus important.
C'est-à-dire, George?
Comment il a fait pour disparaître du bosquet de micocouliers? Il n'y avait qu'une étendue de pelouse dégagée tout autour. Il s'est tout bonnement volatilisé.
Georges?
Oui?
Êtes-vous sûr qu'il y avait vraiment un petit garçon?
La boîte à déjeuner de Marley, Monsieur Bradley, elle était sur la route.
Ça, je n'en doute pas, pensa Bradley en tapotant son bloc-notes avec son stylo bille. Si Marley l'avait avec elle depuis le début. Ou bien, ça c'était une pensée malsaine. Mais qu'y a-t-il de surprenant à avoir des pensées malsaines quand on écoute les histoires à dormir debout d'un assassin d'enfants? Peut-être que c'est toi qui avais la boîte, Georges. Peut-être qu'après la lui avoir piquée, c'est toi qui l'as jetée sur la route pour l'embêter.
Bradley leva les yeux de son bloc-notes, et à l'expression de son client, il vit que ce qu'il était en train de penser aurait aussi bien pu défiler en travers de son front, imprimé sur la bande d'un téléscripteur. Il se sentit rougir.
« Vous voulez entendre la suite, ou vous avez déjà tiré vos propres conclusions ?»«
Pas du tout, » dit Bradley. « Je vous en prie, poursuivez. » Hallows termina son verre et reprit le fil de son récit.
4.
Pendant 5 ans ou plus, j'ai rêvé de cet horrible petit garçon avec ses cheveux poils de carotte et son bonnet à hélice, et puis les rêves ont fini par cesser. Et moi par me convaincre de ce dont il faut bien se convaincre, Monsieur Bradley. Que ce n'était qu'un accident, que l'accélérateur de Madame Peckham s'était bel et bien bloqué, comme ça arrive parfois, et que s'il y avait vraiment un gosse dans les micocouliers, eh bien, les gosses sont parfois cruels, on le sait. Mon père a terminé sa mission pour les mines Goodluck, et nous avons déménagé dans l'est du Kentucky, où l'attendait le même type de travail que celui qu'il avait en Alabama, mais à une plus grande échelle. C'est pas les mines qui manquent dans cette partie du monde, vous savez. Nous sommes restés suffisamment longtemps à Ironville pour que je puisse terminer le lycée. En première, juste pour m'amuser, je me suis inscrit au club théâtre. Les gens se marraient s'ils savaient. Un petit type effacé comme moi, qui gagnait sa vie en remplissant des déclarations de revenus pour des petites entreprises et des veuves, jouait dans des pièces comme Huis clos. Vous parlez d'un Walter Mitty. Et pourtant si, et j'étais bon. Tout le monde le disait. J'ai même envisagé une carrière de comédien. Je savais que les premiers rôles seraient jamais pour moi, mais il faut bien quelqu'un pour jouer le conseiller économique du président, ou le bras droit du méchant, ou encore le mécano qui meurt dans la première moitié du film. Je savais que j'étais capable de jouer des rôles comme ça, et je pensais vraiment qu'on pourrait m'engager. J'ai annoncé à mon père que je voulais étudier le théâtre à l'université. Il m'a dit « Ok, génial, vas-y, prévois juste une issue de secours ». Je suis donc allé à l'université de Pittsburgh où j'ai fait une spécialisation théâtre tout en étudiant la gestion des entreprises. La première fois que j'ai décroché un rôle, c'était dans « Elle s'abaisse pour triompher » et c'est comme ça que j'ai rencontré Vicky Abington. J'étais Tony Lumpkin et elle était Constance Neville. C'était une belle fille, très mince et hypersensible, avec de magnifiques cheveux blonds et bouclés. Beaucoup trop belle pour moi, je pensais, mais j'ai finalement pris mon courage à deux mains et je l'ai invitée à prendre un café. Et c'est comme ça que ça a commencé. On passait des heures chez Nardi's, c'est le fast-food de Pitt Union, et elle me confiait tous ses problèmes, principalement liés à sa mère dominatrice, et me parlait de ses ambitions, tout en rapport avec le théâtre, et plus spécialement New York, Broadway. Il y a 25 ans, le théâtre de Broadway représentait encore quelque chose. Je savais qu'elle se procurait des médicaments au centre de santé de Nordenberg, pour l'anxiété ou la dépression, ou peut-être les deux. Mais je me disais... C'est parce qu'elle est ambitieuse et créative. La plupart des grands acteurs et des grandes actrices doivent prendre ce genre de cachet. Je suis sûr que Meryl Streep aussi en prend, ou du moins qu'elle en prenait avant que Voyage au bout de l'enfer ne la rende célèbre. Et vous savez quoi? Vicky avait un formidable sens de l'humour, quelque chose qui semble manquer à beaucoup de belles filles, surtout si elles souffrent de troubles nerveux. Elle savait rire d'elle-même, et elle ne s'en privait pas. Elle disait que c'était la seule chose qui l'empêchait de devenir folle. On a joué Nick et Honey dans Qui a peur de Virginia Woolf, et on a reçu de meilleures critiques que ceux qui jouaient George et Martha. Après ça, on n'a plus été seulement des copains de café, on est devenu un couple. On se tripotait parfois dans un coin sombre de Pitt Union, mais Vicky finissait souvent par fondre en larmes en disant qu'elle savait qu'elle n'était pas assez douée et qu'elle échouerait au théâtre exactement comme sa mère le prédisait. Un soir, c'était en année de licence, après la fête avec la troupe de Piège Mortel, on a fait l'amour, pour la seule et unique fois. Elle avait aimé, ça avait été merveilleux, à ce qu'elle m'a dit. Mais j'imagine qu'en fait, non, Pas pour elle en tout cas, parce qu'elle n'a jamais voulu le refaire. L'été 2000, on est resté sur le campus. Une grosse production de The Music Man allait être montée à Frick Park. C'était un truc énorme avec Mandy Patinkin comme metteur en scène. Vicky et moi, on a donc tenté notre chance. Moi, j'étais pas du tout nerveux, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais pour Vicky, ce spectacle était devenu sa raison de vivre. Son premier pas vers la célébrité, comme elle disait en ayant l'air de rigoler, mais elle ne rigolait pas du tout. On est passé par groupe de 6, chacun de nous présentait un carton indiquant le rôle qui l'intéressait le plus. Vicky tremblait comme une feuille pendant qu'on attendait à l'extérieur de la salle de répétition. J'ai passé mon bras autour d'elle, ça l'a calmée un peu. Elle était tellement pâle que son maquillage ressemblait à un masque. J'entre, je tends mon carton avec écrit « Mayor Shin », un rôle plutôt modeste, et au final, je décroche celui de Harold Hill, l'escroc charmeur. Le rôle principal, quoi. Vicky se lance pour le rôle de Marion Peru, la bibliothécaire qui donne des cours de piano, le premier rôle féminin. Elle lit bien son texte, selon moi, c'est pas extraordinaire, pas le meilleur d'elle-même, mais correct. Puis vient le moment de chanter. La chanson phare de Marion. Si vous ne la connaissez pas, c'est cette chanson si douce et si simple. Good night, my someone. Elle me l'avait déjà chantée, a cappella, une demi-douzaine de fois, et elle avait toujours été parfaite. Douce, triste et pleine d'espoir. Mais ce jour-là, dans la salle de répétition, elle a tout foiré. Elle a été carrément épouvantable, à vous faire grincer des dents. Elle n'arrivait pas à placer sa voix, et elle a dû s'y reprendre à deux fois. Patinkin s'impatientait, il avait encore une demi-douzaine de filles à faire passer. La pianiste commençait à lever les yeux au ciel. J'avais envie de flanquer un lion dans sa stupide tête de cheval. À la fin de son audition, Vicky tremblait de tous ses membres. Monsieur Patinkin la remercie, elle le remercie, tout ça très poli, et puis elle détale. Je la rattrape avant qu'elle ait quitté le bâtiment, et je lui dis qu'elle a été géniale. Elle me sourit, me dit merci, et ajoute qu'on sait très bien l'un comme l'autre qu'elle n'a pas été géniale. Je lui dis que si Monsieur Patinkin est à la hauteur de sa réputation, il saura déceler son talent derrière sa nervosité. Elle me serre dans ses bras et me dit que je suis son meilleur ami. Et puis, il y aura d'autres pièces, elle rajoute. La prochaine fois, je prendrai un Valium avant l'audition. J'avais juste peur que ça change ma voix. J'ai entendu dire que certains cachets font ça. Là-dessus, elle rigole et me dit « Mais ça n'aurait vraiment pas pu être pire. » Je lui propose de lui offrir une glace chez Norley's. Elle accepte et nous voilà partis. On marchait sur le trottoir, main dans la main, et ça me rappelait tous les allers et retours à pied que j'avais fait avec Marley Jacobs pour aller à Mary Day. Je n'affirmerai pas que c'est d'y penser qui l'a fait revenir, mais je n'affirmerai pas le contraire non plus. Je n'en sais rien. Je sais seulement que certains soirs je me pose la question et je n'arrive pas à m'endormir. Je pense que Vicky se sentait un peu mieux parce qu'elle s'extasiait sur mon rôle. Elle me disait quel formidable professeur Hill je ferais, quand tout d'un coup, on entend quelqu'un nous interpeller du trottoir d'en face. Sauf que c'était pas une voix qui appelait, c'était un âne en train de braire. « George et Vicky qui baisent au lit !» C'était lui, l'horrible petit garçon. Même short, même pull, même tignasse rousse débordant du même bonnet à hélice. Près de 10 ans s'étaient écoulés, et il n'avait pas pris un seul jour. J'ai eu l'impression d'être catapulté dans le passé, sauf que cette fois, j'étais avec Vicky Abington et pas Marley Jacobs, et on était dans Reynolds Street à Pittsburgh et pas dans School Street à Talbot, Alabama. « C'est quoi ce cirque ?» me fait Vicky. « Tu le connais, George ?» Qu'est-ce que je pouvais bien répondre à ça ? Je réponds rien. J'étais tellement effaré que je pouvais même pas ouvrir la bouche. « T'es une actrice de merde qui chante la grosse merde !» le gosse lui crie. « Les corbeaux chantent mieux que toi. En plus, t'es vilaine. Vicky la vilaine. Bouh !» Elle met sa main devant sa bouche et je me rappelle comment ses yeux se sont agrandis et remplis de larmes à nouveau. « Pourquoi tu lui suces pas la bite ?» il continue. « C'est leur seule chance de décrocher un rôle aux grosses vaches vilaines et sans talent comme toi !» J'ai fait le geste de me lancer à sa poursuite, sauf que ça me paraissait irréel. J'avais la sensation que tout se déroulait comme dans un rêve. C'était la fin de l'après-midi, et la circulation était dense, mais ce détail m'avait échappé. Heureusement que Vicky m'a saisi par le bras pour me ramener à elle. Je pense qu'elle m'a sauvé la vie parce qu'une seconde plus tard, Un énorme autobus me frôlait en klaxonnant.
« Arrête !» m'a dit Vicky. « Ce gosse n'en vaut pas la peine, peu importe qui c'est. »
Un camion suivait l'autobus de près, et une fois qu'ils nous ont dépassés tous les deux, on a vu le gosse remonter la rue en courant de l'autre côté avec son gros cul qui rebondissait. Avant de tourner au coin, il a baissé son short et il s'est penché pour nous montrer ses fesses.
Vicky s'est assise sur un banc et je me suis assis à côté d'elle. Elle m'a redemandé qui était ce gosse et je lui ai dit que je n'en savais rien.
« Alors comment il connaissait nos noms ?» elle me demande.
« J'en sais rien, je lui répète. »
« Au moins, il avait raison sur un point, » elle dit. « Si je veux un rôle dans The Music Man, je ferais mieux d'y retourner et de tailler une pipe à Mandy Patinkin. » Et là-dessus, elle éclate de rire, un vrai rire cette fois, du genre qui monte du ventre et roucoule dans la gorge. Elle renverse la tête en arrière et elle s'en donne à cœur joie.
« T'as vu son vilain petit cul ?» qu'elle me dit. « Deux petites miches prêtes à mettre au four. »
Et moi aussi, je suis parti d'un fou rire. On est tombés dans les bras l'un de l'autre, joue contre joue, et on a carrément hurlé de rire. Je pensais alors qu'on allait bien, mais à la vérité, on s'en rend jamais compte sur le moment, pas vrai? C'était une crise d'hystérie qui nous avait saisis. Moi, parce que c'était le même gosse après toutes ces années. Vicky, parce qu'elle croyait à ses bêtises, qu'elle était mauvaise et que même si elle ne l'était pas, elle n'arriverait jamais à surmonter son stress pour le prouver. Ensuite, je l'ai raccompagnée à Fudgy Acres, un vieil immeuble d'appartements loué exclusivement à des filles. Je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a redit que je ferais un formidable Harold Hill. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a inquiété, alors je lui ai demandé si ça allait.
« Bien sûr que ça va, idiot !» elle me dit.
Et elle remonte l'allée en courant. C'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. Après l'enterrement, j'ai invité Carla Winston à prendre un café. C'était la seule fille de Fudgy Acres avec qui Vicky était intime. Ses mains tremblaient tellement que j'ai fini par transvaser sa tasse de café dans un verre de peur qu'elle se brûle. Carla n'avait pas seulement un chagrin épouvantable, elle s'en voulait de ce qui était arrivé. Tout comme Madame Peckham devait s'en vouloir pour Marley, j'imagine. Cet après-midi-là, elle avait trouvé Vicky dans la salle commune du rez-de-chaussée, rivée à la télé. Sauf que le poste était éteint. Carla disait qu'elle lui avait semblé lointaine et confuse. Elle avait déjà vu Vicky dans cet état, quand elle s'embrouillait dans le compte de ses cachets, et qu'elle en prenait un de trop ou qu'elle les prenait dans le désordre. Carla lui demande si elle veut aller au centre de santé pour consulter un médecin, mais Vicky dit non, qu'elle va bien, dure journée c'est tout, mais ça ira mieux sous peu.
« Il y avait un sale gosse, » elle dit à Carla. « J'ai foiré mon audition et puis ce gosse est venu me provoquer. »«
Quel dommage, » dit Carla. « George le connaissait. Il m'a dit que non, mais ça se voyait. Tu veux savoir ce que je pense ?»«
Oui, bien sûr, » lui dit Carla.
À ce stade, elle était sûre que Vicky s'était plantée dans ses cachets ou qu'elle avait fumé de l'herbe, ou les deux. « Je pense que c'est George qui a monté le coup, pour s'amuser. Mais quand il a vu à quel point j'étais bouleversé, il a regretté et il a essayé de faire taire le gosse. Sauf que le gosse s'arrêtait jamais. »
Carla lui dit, « Mais c'est insensé, Vic. George ne te ferait jamais une chose pareille. Il t'aime. »
Et Vicky lui répond, « Il avait pourtant raison, ce gosse. Je ferais mieux de laisser tomber. » Là, j'ai arrêté Carla pour lui dire que ce gosse n'avait rien à voir avec moi. Carla m'a dit que je n'avais pas besoin de le préciser, elle savait que j'étais un gars bien et combien je tenais à Vicky. Et puis, elle se met à pleurer.
« C'est ma faute, George, pas la tienne, » elle me dit. « J'ai bien vu qu'elle n'était pas dans son état normal et j'ai rien fait. Et tu sais comment c'est arrivé. Ça aussi, c'est ma faute, parce que je suis sûr qu'elle voulait pas le faire, j'en suis sûr. »
Carla avait laissé Vicky devant la télé et elle était remontée réviser. 2 heures plus tard, elle redescend frapper à la porte de Vicky. Je me disais qu'elle aimerait peut-être sortir manger un bout, m'explique Carla. Peut-être même prendre un verre de vin si l'effet des cachets s'était dissipé. Mais elle n'était pas dans sa chambre. Alors Carla retourne dans la salle commune. Vicky n'y était pas non plus. Il y avait 2 filles qui regardaient la télé et l'une d'elles lui dit qu'elle croyait avoir vu Vicky descendre un peu plus tôt, probablement pour faire une lessive, parce qu'elle avait des draps, lui dit la fille. Ça inquiète un peu Carla. Mais elle ne s'interroge pas plus que ça. Elle descend au sous-sol, mais il n'y a personne dans la buanderie et aucune des machines à laver n'est en route. La pièce à côté était le débarras où les filles entreposaient leurs bagages. Carla entend du bruit derrière la porte, et quand elle entre, elle voit Vicky, de dos, debout sur une petite pile de valises.
Elle avait noué deux draps ensemble pour en faire une corde. Une extrémité était attachée à la tuyauterie du plafond. L'autre extrémité, elle en avait fait un nœud coulant qu'elle s'était passé autour du cou. Mais il n'y avait que trois valises empilées, m'explique Carla, et du mou dans la longueur de drap. Si elle avait voulu en finir pour de bon, elle aurait pris un seul drap et elle serait montée sur une malle placée verticalement. C'était seulement une répétition générale, tu vois, comme au théâtre.
« Tu ne peux pas en être sûr, je lui dis. Tu ne sais pas combien de cachets elle avait pris, ni à quel point elle avait l'esprit confus. »
« Je sais ce que j'ai vu, me répond Carla. Elle aurait pu descendre de ses valises sans que ça resserre le nœud coulant. Mais je n'ai pas pensé à ça sur le moment. J'étais trop choqué, j'ai juste crié son nom. Ça l'a fait sursauter, et au lieu de descendre de sa pile de valises, elle a perdu l'équilibre en avant, et les valises sont parties en glissade vers l'arrière. Elle aurait atterri à plat ventre par terre s'il y avait eu assez de mou dans sa corde de fortune. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Elle aurait encore pu s'en sortir si le nœud entre les deux draps avait cédé. Mais au contraire, le poids de son corps a resserré le nœud et sa tête a été violemment projetée en arrière.
« J'ai entendu craquer son cou, m'a dit Carla. Un bruit tellement fort. Et c'était ma faute. » Et puis elle a pleuré, pleuré, pleuré.
Je l'ai entraînée hors du café jusqu'à l'arrêt de bus, en lui répétant sans cesse que non, ce n'était pas sa faute. Non, 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 et enfin elle s'est arrêtée de pleurer. Elle a même souri un peu.
« Tu es très persuasif, George, elle m'a dit. » Ce que je ne lui ai pas dit, parce qu'elle ne m'aurait pas cru, c'est que ma force de persuasion provenait d'une certitude absolue.
5. Le sale gosse s'en prenait aux gens que j'aimais, dit Alice. Bradley hocha la tête. Il était clair que Alice y croyait, et si cette histoire avait fait surface au procès, elle aurait pu valoir à l'homme la prison à vie au lieu d'un aller simple pour le manoir de l'aiguille. Le jury n'aurait vraisemblablement pas été convaincu à l'unanimité, mais ça lui aurait au moins donné une raison d'écarter la peine de mort. Il était probablement trop tard maintenant. Une requête en sursis appuyée sur cette histoire de petit voyou ferait figure de tentative désespérée. Il fallait voir Alice pour le croire, lire la certitude absolue sur son visage, l'entendre dans sa voix. Le condamné, cependant, l'ombre d'un sourire aux lèvres, considérait son avocat à travers le plexiglas légèrement embué. Ce gosse n'était pas seulement méchant, il était gourmand. Il fallait toujours qu'il ait son lot de deux, un mort et un laissé pour compte mis à mariner dans un bain bien chaud de culpabilité. « Vous avez pu convaincre Carla, dit Bradley. Elle vous a épousé après tout. » Elle n'a jamais été entièrement convaincue. Elle n'a jamais cru à l'existence de ce sale gosse. Sinon, elle serait venue au procès et nous serions encore mariés. Sans ciller, Alice fixait Bradley à travers la paroi de sécurité. Et elle aurait même été contente que je le tue. Dans son coin, McGregor, le maton, consulta sa montre, enleva ses écouteurs et se leva.
« Je ne veux pas vous presser, maître, mais il est 11h30. » Et votre client doit être revenu dans sa cellule pour l'appel de midi.
« Je ne vois pas ce qui vous empêche de procéder à son appel ici, » dit Bradley, courtoisement.
Il n'était pas recommandé de réveiller le côté obscur d'un maton, et même si McGregor faisait partie des meilleurs, Bradley ne doutait pas qu'il eût un côté obscur. C'était un prérequis pour des hommes chargés de surveiller des tôlards endurcis.
« Vous l'avez sous les yeux, après tout. »« Le règlement, c'est le règlement, » dit McGregor.
Puis il leva la main comme pour contrer une protestation que Bradley n'avait pas proférée.
« Je sais que vous avez droit à tout le temps que vous voulez si près de la date, donc si vous voulez attendre, je vous le ramène dès que l'appel est terminé. Mais il ratera le déjeuner, et vous aussi probablement. »
Ils regardèrent McGregor retourner à sa chaise et replacer ses écouteurs dans ses oreilles. Lorsque Alice se tourna vers la séparation en plexiglas, il avait plus qu'une ombre de sourire sur les lèvres.
« Oh, et puis j'imagine que vous pouvez sans doute deviner la suite. »
Bradley avait beau être sûr de la deviner, il posa les mains sur son bloc-notes, toujours vierge, et dit
« Pourquoi ne pas me la raconter quand même ?»
6. J'ai refusé le rôle de Harold Hill et laissé tomber le théâtre. J'avais perdu l'envie de jouer. Ma dernière année à Pitt, je me suis concentré sur les cours de commerce, surtout la comptabilité, et sur Carla Winston. Avant la remise des diplômes, nous étions mariés. Mon père était mon témoin, il est mort 300 après. L'une des mines qu'il supervisait se trouvait dans la ville de Louisa, un peu au sud d'Ironville,
où il vivait toujours avec Nana McCarthy, Mama Nanny, sa gouvernante. La mine s'appelait Fair Deep. Un jour, il s'est produit un effondrement dans le deuxième puits, à une soixantaine de mètres de profondeur. Rien de bien grave, tout le monde s'en était sorti sain et sauf, mais mon père est descendu avec deux employés de l'administration pour estimer les dégâts et le temps qu'il faudrait pour remettre les choses en route. Il n'est jamais remonté, les autres non plus. « Ce garçon n'arrête pas d'appeler », m'a dit plus tard Mama Nanny. Ça avait toujours été une belle femme, mais l'année qui a suivi la mort de mon père, elle s'est couverte de rides et sa peau est devenue toute flasque. Elle ne marchait plus, elle traînait les pieds, et dès que quelqu'un entrait dans la pièce, elle voûtait les épaules comme si elle s'attendait à être frappée. Ce n'était pas la mort de mon père qui lui faisait ça. C'était ce sale gosse. « Il arrête pas de m'appeler, il me traite de salope de négresse, mais ça m'est égal, j'ai entendu pire. Ça me fait autant d'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard. Ce qui me fait mal, c'est de l'entendre dire que c'est la faute au cadeau que j'ai fait à ton père, cette paire de bottes-là. C'est pas vrai, hein, Georgie, c'est pas possible, il y a forcément eu autre chose. Ton père, il avait forcément mis ses feutres par-dessus ses bottes. Jamais il aurait oublié de mettre ses feutres après un accident de mine, même un qui paraissait pas trop grave. » J'ai approuvé, mais je voyais bien que le doute la rongeait comme de l'acide. Ces bottes-là, c'était des Trailman Specials. Mama Nanny les avait offertes à papa pour son anniversaire, à peine 2 mois avant l'explosion de Fair Deep. Elle avait dû y mettre au moins $300, mais elle les valait. Tige haute, jusqu'aux genoux, cuir souple comme de la soie, mais solide. Le genre de bottes qu'un homme peut porter toute sa vie et léguer ensuite à son fils. Mais c'est des bottes à semelles ferrées, vous comprenez? Et sur une surface adéquate, des fers comme ça peuvent provoquer des étincelles, comme le silex sur l'acier. Mon père n'aurait jamais porté de souliers ferrés pour entrer dans une mine avec la présence possible de méthane ou de grisou, et n'allait pas me dire qu'il a pu simplement oublier. Pas quand lui et les deux autres bonshommes se trimballaient avec des masques à gaz et des bouteilles d'oxygène. Et même s'il avait ses specials aux pieds, Mama Nanny avait raison, il aurait porté ses feutres de protection par-dessus. Elle n'avait pas besoin de moi pour le lui dire, elle savait comme il était précautionneux. Mais même l'idée la plus folle peut s'insinuer dans votre esprit si vous êtes seul et rongé par le chagrin, et que quelqu'un n'arrête pas de retourner le couteau dans la plaie. Elle peut se tortiller comme un ver de vase là-dedans et y pondre ses œufs. Et bientôt, c'est tout votre cerveau qui grouille d'asticots. Je lui ai conseillé de changer de numéro de téléphone, et elle l'a fait. Mais le petit voyou a obtenu le nouveau numéro, et il a continué à l'appeler, et c'était toujours la même chanson. Il lui disait que mon père avait oublié ce qu'il avait au pied et qu'une de ses bottes ferrées avait provoqué une étincelle. « Ça serait pas arrivé si tu lui avais pas offert ses bottes, salope de négresse idiote !» Voilà le genre de choses qu'il lui disait, et probablement pire, mais elle ne voulait pas me le répéter. Elle a carrément fini par faire couper son téléphone. Je lui ai dit que, vivant seule, elle devait avoir le téléphone, mais elle ne voulait rien entendre. « Il appelle en plein milieu de la nuit des fois, Georgie », elle me dit. « Tu sais pas ce que c'est que d'être allongé là, à écouter le téléphone sonner en sachant que c'est ce gosse ? Quel genre de parent il a pour le laisser faire des choses pareilles ? Je n'imagine même pas. « Débranche-le pendant la nuit », je lui ai suggéré. Et elle m'a dit « Je l'ai fait, mais des fois, il sonne quand même. » Je lui ai dit que c'était juste son imagination. Et j'ai essayé de m'en convaincre moi-même, Monsieur Bradley, mais je n'ai jamais réussi. Si ce sale gosse avait pu s'emparer de la boîte à déjeuner de Marley et savoir pour l'audition ratée de Vicky et pour les Trailman Specials de papa, s'il pouvait rester jeune année après année, alors oui, il pouvait très bien faire sonner un téléphone débranché. La Bible dit que le diable a été lâché sur terre pour errer en toute liberté, que même la main de Dieu ne peut l'arrêter. Je ne sais pas si ce sale gosse était le diable, mais c'était un diable, ça oui. Je ne sais pas non plus si un appel aux urgences aurait pu sauver Mama Nanny. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'elle a fait sa crise cardiaque, elle n'avait plus de téléphone pour appeler une ambulance. Et elle est morte toute seule dans sa cuisine. C'est une voisine qui l'a trouvée le lendemain. Nous sommes allés à son enterrement, Carla et moi, et ensuite nous avons passé la nuit dans la maison de mon père et de Mama Nanny. Je me suis réveillé juste avant le lever du jour à cause d'un mauvais rêve et je n'ai pas pu me rendormir. Quand j'ai entendu le journal atterrir sur le porche, je me suis levé pour aller le chercher et j'ai vu que le fanion de la boîte aux lettres était levé. J'ai descendu l'allée en robe de chambre et en chaussons pour aller l'ouvrir. Dedans, il y avait un bonnet avec une hélice en plastique sur le dessus. Je l'ai saisi et il était tout chaud, comme si la personne qui venait de le retirer était brûlante de fièvre. Rien que de le toucher, j'ai eu l'impression d'être contaminé, mais je l'ai quand même retourné et j'ai regardé à l'intérieur. Le tissu était tout gras d'huile pour les cheveux, le genre démodé que presque plus personne n'utilise aujourd'hui. Il y avait aussi un mot, écrit d'une main enfantine, des lettres toutes de traviole et penchées qui disaient « Garde-la, j'en ai une autre !» J'ai ramené cette saloperie de truc à l'intérieur, pincé entre le pouce et l'index, des fois que ça serait vraiment contagieux, et je l'ai fourré dans la cuisinière à bois. J'y ai jeté une allumette et le bonnet s'est embrasé d'un coup. Flouf ! Les flammes étaient verdâtres. Quand Carla est descendue, une demi-heure plus tard, elle a reniflé en demandant « C'est quoi cette puanteur ? On se croirait à marée basse !» Je lui ai dit que c'était plus probablement la fosse septique dehors qui avait besoin d'une bonne vidange, mais je n'étais pas dupe. C'était la puanteur du méthane, ça, la dernière chose que mon père a dû sentir avant qu'une déflagration l'expédie au paradis, avec les deux hommes qui l'accompagnaient. À l'époque, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable, l'une des plus grosses boîtes indépendantes du Midwest, et je gravissais les échelons plutôt rapidement. J'ai découvert que si on arrive avant l'heure, qu'on repart après l'heure et qu'on garde toujours l'œil sur la balle entre-temps, c'est forcé d'arriver. On voulait des enfants, Carla et moi, et on en avait les moyens. Mais il n'y avait rien à faire, les Anglais débarquaient tous les mois, réglés comme du papier à musique. On est allé voir un obstétricien à Topeka, il a fait tous les examens de routine et dit que tout était normal, qu'il était encore trop tôt pour parler de stérilité et de traitement. Il nous a dit de rentrer chez nous, de nous détendre et de jouir de notre vie sexuelle. Ce que nous avons fait. Et 11 mois plus tard, les Anglais ont cessé de débarquer. Carla avait reçu une éducation catholique, mais une fois entrée à l'université, elle avait arrêté d'aller à l'église. Quand elle a été sûre d'être enceinte, elle a recommencé à y aller et elle m'a traîné avec elle. On allait à St. Andrews, peu m'importait. Si elle voulait attribuer à Dieu tout le mérite de son polichinelle dans le tiroir, ça ne me dérangeait pas. Elle en était à son 6e mois de grossesse quand elle a fait une fausse couche, à cause de l'accident qui n'en était pas vraiment un. Le bébé a vécu quelques heures et il est mort. C'était une fille. Il lui fallait un prénom, alors on l'appelait Helen, comme la grand-mère de Carla. L'accident s'est produit après la messe. Il était prévu qu'on aille déjeuner en ville avant de rentrer à la maison, où je regarderais le foot à la télé. Carla s'allongerait pour se reposer et savourer sa grossesse. Et elle l'a savouré, Monsieur Bradley, tous les jours, même au début quand elle avait ses nausées matinales. On était à peine sortis de l'église que j'ai aperçu le sale gosse. Même short ample, même pull à rayures, même petit ventre grassouillé et sein rondouillard de garçon. Le bonnet que j'avais trouvé dans la boîte aux lettres était bleu et celui qu'il portait à notre sortie de l'église était vert, mais il avait le même genre d'hélice en plastique fixée sur le dessus. Moi, de petit garçon, j'avais grandi pour devenir un homme avec mes premières touches de gris sur les tempes, mais cet affreux Jojo avait toujours 6 ans, 7, à tout casser. Il se tenait un peu à l'écart. Un autre gosse lui faisait face, un gosse normal, le genre qui grandirait. Il avait l'air abasourdi et effrayé. Il tenait quelque chose à la main. Ça ressemblait à la balle fixée à la raquette du tap-ball que Mamie Noni m'avait offerte quand j'étais petit. « Allez, vas-y !» j'ai entendu le sale gosse dire à l'autre. « Sauf si tu veux que je reprenne les $5 que je t'ai donnés !»« Je veux plus le faire, » disait le gosse normal. « J'ai changé d'avis. » Carla n'a rien vu de tout ça. Elle était debout en haut des marches en train de bavarder avec le père Patrick. Elle lui disait combien elle avait apprécié son sermon qui l'avait beaucoup inspiré. C'était des marches en granit, très raides. Je crois que je me suis avancé pour la prendre par le bras, mais peut-être pas. Peut-être que j'étais juste paralysé, comme le jour où ce sale gosse avait débarqué après l'audition ratée de Vicky pour The Music Man. Avant que je puisse sortir de ma tétanie ou prononcer un seul mot, l'affreux Jojo a fait un pas en avant. Il a plongé la main dans la poche de son short et a dégainé un briquet. Dès qu'il l'a allumé et que j'ai vu l'étincelle, j'ai su ce qui était arrivé au fond de la mine de Fair Deep, et ça n'avait rien à voir avec les fers aux semelles de mon père. Quelque chose a commencé à crépiter et à fuser sur la balle rouge que le gosse normal avait dans la main. Il l'a jetée pour s'en débarrasser, et le sale gosse a rigolé. Sauf que c'était un gros rire gras et glaireux. Comme ça. La balle a frappé le côté de l'escalier sous la rampe en fer, et elle a rebondi juste avant d'exploser dans un bang assourdissant et un éclair de lumière jaune. C'était pas un simple pétard, ni même un gros démon décibel. C'était un énorme M80. Le bruit a fait sursauter Carla exactement comme son cri avait fait sursauter Vicky dans le débarras de Fudgy Acres. J'ai tendu la main pour la rattraper, mais je n'ai réussi qu'à lui effleurer l'épaule. Comme elle tenait la main du père Patrick dans les siennes, ils sont tous les deux tombés à la renverse dans les escaliers. Il a eu un bras et une jambe cassés, Carla une cheville, traumatisme crânien aussi. Et elle a perdu le bébé. Elle a perdu Helen. Le lendemain, le gosse qui avait jeté le M80 s'est présenté au poste de police avec sa mère et il a tout avoué. Il était bouleversé, bien sûr, et il a dit ce que la plupart des enfants disent quand quelque chose tourne mal, et la plupart du temps ils en sont persuadés. C'était un accident, on voulait faire de mal à personne. Il a dit qu'il n'aurait jamais jeté le pétard si l'autre garçon n'avait pas allumé la mèche, mais il avait eu peur d'y laisser les doigts. Et non, il ne connaissait pas l'autre gamin, il ne l'avait jamais vu avant et ne savait pas son nom. Et puis, il a remis au policier les $5 que l'horrible gosse lui avait donnés. Après ça, Carla n'a plus tellement eu envie de fricoter avec moi dans la chambre et elle a cessé d'aller à l'église. Moi, j'ai continué et je me suis impliqué dans le club Conquête. Vous savez ce que c'est, Monsieur Bradley, non pas que vous soyez catholique, mais c'est là que vous êtes entré en scène. Je ne m'enquiquinais pas avec l'aspect religieux, ils avaient le père Patrick pour ça. Mais ça me plaisait bien d'entraîner les équipes de baseball et de touch football. J'étais toujours là pour les sorties pique-nique et camping, et j'ai passé le permis D pour pouvoir conduire le bus de l'église et emmener les garçons à des compétitions de natation, des retraites, des journées gratuites dans des parcs d'attractions. Et j'emportais toujours mon revolver avec moi, le Colt 45 que j'avais acheté au Monde Piété Wise Pond and Lawn. Vous savez, la pièce à conviction A de l'accusation. Je l'ai trimballé avec moi pendant 5 ans, tantôt dans la boîte à gants de ma voiture, tantôt dans la caisse à outils du bus Conquête. Pendant les entraînements, je l'avais dans mon sac de sport. Carla a commencé à désapprouver mon implication dans le club Conquête parce que ça monopolisait beaucoup de mon temps libre. Quand le père Patrick demandait des bénévoles, j'étais toujours le premier à lever la main. Je crois bien qu'elle était jalouse. « T'es pratiquement plus jamais à la maison le week-end », elle me disait. « J'en viens à me demander si t'aurais pas un penchant pour ces garçons. » C'est sûr, ça devait sembler un peu louche, car en plus du reste, j'avais pris l'habitude de me choisir des chouchous et de leur accorder une attention particulière. De gagner leur sympathie et de leur venir en aide, c'était pas difficile. La plupart d'entre eux venaient de milieux modestes. Un parent seul, le plus souvent la mère, obligée de bosser au salaire minimum pour assurer le gîte et le couvert. S'il y avait une voiture à la maison, maman en avait besoin. Aussi je me faisais un plaisir de passer prendre mon petit chouchou du moment pour l'emmener aux réunions du club Conquête du jeudi soir et de le ramener ensuite. Si j'avais un empêchement, je leur donnais des tickets de bus, mais jamais d'argent. J'ai appris de bonne heure que donner de l'argent à ces gamins n'est pas une bonne idée. Et j'ai remporté quelques belles victoires. Je pense à un gosse, il avait peut-être 2 pantalons et 3 t-shirts en tout et pour tout quand je l'ai connu. C'était un prodige en maths. Eh bien, j'ai réussi à lui décrocher une bourse pour une école privée et maintenant, il est en première année à l'université du Kansas avec une bourse à taux plein. D'autres touchaient à la drogue. Un au moins s'en est sorti. Enfin, je crois. On peut jamais être vraiment sûr. Un autre a fugué après une dispute avec sa mère. Il m'a appelé d'Omaha 1 mois plus tard, alors que sa mère s'était faite à l'idée qu'il était mort ou parti pour ne jamais revenir. C'est moi qui suis allé le rechercher. Travailler avec ces garçons, ça m'a donné l'occasion de faire le bien. Beaucoup plus qu'en remplissant des déclarations d'impôts ou en montant des sociétés écrans dans le Delaware pour échapper au fisc, ça c'est sûr. Mais c'était pas pour ça que je le faisais. C'était secondaire. Des fois, Monsieur Bradley, j'emmenais un de mes chouchous pêcher à Dixon Creek ou au pont sur la Grande Rivière. Moi aussi j'y allais pour pêcher, mais pas la truite ni la carpe. Longtemps je n'ai pas senti la moindre petite touche au bout de ma ligne. Et puis est arrivé Ronald Gibson. Ronnie avait 15 ans, mais il en faisait moins. Il était borgne, et donc il pouvait pas jouer au baseball ni au football américain, mais c'était un génie aux échecs et à tous les jeux de société auxquels les garçons jouaient les jours de pluie. Personne ne le brimait. Il était comme qui dirait la mascotte du groupe. Son père avait quitté le foyer quand il avait dans les 9 ans, et il était très en manque d'attention masculine. Bien vite, il m'a pris pour confident. Son plus gros souci, c'était sa vue. une anomalie congénitale qu'on appelle le kératocone, une malformation de la cornée. Un médecin leur avait dit qu'une greffe de la cornée était possible, mais ce serait cher et sa mère n'avait pas les moyens. Alors je suis allé trouver le père Patrick, et à nous deux, nous avons organisé une demi-douzaine de collectes de fonds pour un projet intitulé « Un nouveau regard pour Ronnie ». On est même passé à la télé, aux infos locales sur la 4. On nous voyait, Ronnie et moi, marchant dans Barnum Park, mon bras autour de ses minces épaules. Carla a reniflé avec dédain quand elle l'a vu. « Si t'as pas le béguin pour eux », elle m'a dit, « c'est pas ce que les gens vont croire en voyant ça ». Je me fichais pas mal de l'opinion des gens, parce que peu de temps après ce petit reportage, il a enfin mordu à mon hameçon. Je le sentais, là, en plein dans ma tête, le sale gosse. J'avais enfin attiré son attention, et je le sentais qu'il regardait. Ronnie a été opéré. Son œil n'a pas retrouvé entièrement la vue, mais presque. Ensuite, pendant un an, il était censé porter des lunettes spéciales qui foncent au soleil, mais ça lui était égal. Il disait que ça lui donnait un air plutôt cool. Une après-midi, pas longtemps après l'opération, sa mère et lui sont venus me trouver après l'école dans mon petit bureau du club Conquête au sous-sol de St. Andrews. Sa mère me dit, « S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour vous remercier, Monsieur Hallis, vous n'avez qu'à demander. » Je leur dis que non, ils ne me devaient rien, que ça avait été un plaisir, et puis je faisais semblant d'avoir une idée. « Si, vous pouvez peut-être faire quelque chose pour moi, » je leur dis. « Oh, une petite chose. »« Bien sûr, Monsieur H., dites-moi, » me dit Ronnie. Alors j'ai raconté. Un jour, le mois dernier, je me suis garé derrière l'église, et j'avais presque descendu l'escalier quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de verrouiller ma voiture. J'y suis retourné et j'ai vu un gamin à l'intérieur en train de farfouiller. J'ai crié et il a filé comme une flèche. Seulement, il avait pris ma réserve de petite monnaie que je garde dans la boîte à gants pour le péage. Je lui ai couru après, mais il était trop rapide pour moi. « Tout ce que j'aimerais, » j'ai dit à Ronnie et sa mère, « c'est le retrouver et lui parler. Lui dire ce que je vous dis à tous. » Que voler n'est pas une bonne façon de commencer dans la vie. Ronnie m'a demandé à quoi il ressemblait. Plutôt petit et rondouillard, j'ai dit. Cheveux poils de carotte, presque fluo, un vrai rouquin. Le jour où je l'ai vu, il portait un short gris et un pull vert avec des rayures de la même couleur que ses cheveux. Madame Gibson s'est exclamée, « Bonté divine, est-ce qu'il portait un petit bonnet avec une hélice dessus ?»« Eh bien oui, en effet, » j'ai dit en gardant un ton calme et posé. « Maintenant que vous le dites, il me semble que oui. »« Je l'ai vu de l'autre côté de la rue, » a dit la mère de Ronnie. « Je me suis dit qu'il devait venir d'emménager dans un des lotissements. »« Et toi, Ronnie ?» j'ai demandé. « Moi non, » il m'a dit. « Jamais vu. »« Eh bien, si jamais tu le vois, ne lui dis rien. Viens juste me chercher. Tu ferais ça pour moi ?» Il m'a dit que oui, et j'ai été satisfait. Parce que je savais que ce sale gosse était de retour et que je serais là quand il ferait son prochain coup. Il voulait que je sois là. C'était tout l'intérêt pour lui. Parce que c'était moi qu'il voulait blesser. Tous les autres, Marley, Vicky, mon père, Mama Nanny, c'était juste des dommages collatéraux. Une semaine a passé, puis deux. Je commençais à croire que le gosse avait senti ce que je tramais. Et puis un jour, le fameux jour, Monsieur Bradley, un des garçons est arrivé en courant sur le terrain de jeu derrière l'église où j'étais en train d'aider à installer le filet de volley-ball. « Il y a un gosse qui a fait tomber Ronnie !» « Et qui lui a piqué ses lunettes !» crie le garçon. « Il s'est enfui dans le parc et Ronnie le poursuit !» J'ai pas hésité une seule seconde. J'ai attrapé mon sac de sport, je l'emportais partout avec moi toutes ces années où j'avais mes chouchous, et j'ai couru jusqu'au parc. Je savais que c'était pas le sale gosse qui avait piqué les lunettes de Ronnie. C'était pas son style. Le voleur de lunettes, ce serait un enfant tout aussi normal que celui qui avait jeté le gros pétard, et il serait tout aussi désolé une fois que le mauvais tour que l'autre avait en tête serait accompli. Si je le laissais s'accomplir. Ronnie n'était pas un garçon athlétique, il ne pouvait pas courir très vite. Le voleur de lunettes a dû s'en rendre compte parce qu'il s'arrête au bout du parc, les lunettes brandies au-dessus de la tête, et il se met à crier « Viens les chercher, Ray Charles! Viens les chercher, Stevie Wonder !» J'entends la circulation sur Barnum Boulevard, et je comprends tout de suite ce que ce méchant garçon a en tête. Il pense que ce qui a marché une fois marchera une deuxième fois. Ce sont des lunettes photochromiques au lieu d'une boîte à déjeuner Steve Austin, mais l'objectif est le même. Plus tard, le gosse qui a fauché les lunettes pleura et jura qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Il pensait que ce n'était qu'une blague, un bizutage, ou alors une punition infligée à Ronnie pour avoir bousculé le petit rondouillard poil de carotte sur le trottoir. Je pourrais facilement rattraper Ronnie, mais je ne le fais pas tout de suite. Ronnie est mon hameçon, vous voyez, et je ne veux surtout pas le remonter trop vite. Quand Ronnie est suffisamment prêt, le garçon que l'affreux Jojo a manipulé pour faire le sale boulot à sa place s'engouffre sous l'arbre en pierre qui débouche de Barnum Park dans Barnum Boulevard, en agitant toujours les lunettes au-dessus de sa tête. Ronnie est toujours à sa poursuite, moi pas loin derrière. Je ralentis pendant que j'ouvre mon sac de sport, mais une fois que j'ai le revolver en main, je lâche le sac et je pique un sprint.
« Reste où tu es !» je crie à Ronnie en le dépassant. « Ne fais pas un pas de plus !»
Ronnie s'est arrêté et je remercie le bon Dieu pour ça. S'il lui était arrivé quelque chose, je ne serais pas ici à attendre la piqûre, Monsieur Bradley. Je me serais suicidé. Quand je passe sous l'arche, j'aperçois le sale gosse qui attend sur le trottoir. C'est toujours le même, il n'a pas changé. L'autre garçon lui tend les lunettes de Ronnie et l'affreux Jojo lui tend un billet en échange. Quand il me voit arriver, il perd pour la première fois le vilain petit sourire impudent qu'il a sur ses bizarres petites lèvres rouges. Parce que c'est pas ça son plan. Son plan, c'est Ronnie d'abord, moi ensuite. Ronnie est censé le courser de l'autre côté de la rue et se faire renverser par un camion ou un bus. Moi, je suis censé arriver en dernier, et voir ça. Poil de carotte s'élance dans Barnum Boulevard. Vous savez comment est le boulevard à la sortie du parc. Du moins, vous devriez, après la vidéo que l'accusation nous a montrée trois fois au cours du procès. Trois voies dans les deux sens, deux pour la circulation, une de dégagement, avec un séparateur en béton au milieu. Quand il arrive au séparateur de voies, Poil de carotte regarde en arrière, et là, je vois qu'il est plus qu'étonné. Il est carrément effrayé. Et ça, pour la première fois depuis la dégringolade de Carla sur le perron de l'église, ça m'a rendu heureux. J'ai à peine le temps de l'entrevoir qu'il fonce pour traverser les voies sud sans même faire attention à la circulation. Je fonce pour traverser les axes nord comme lui. J'ai conscience du danger, mais je m'en fiche. Au moins, si je me fais renverser, ce sera un véritable accident cette fois, pas une histoire d'accélérateur mystérieusement bloqué. Appelez ça du suicide si vous voulez, mais ce n'était pas le cas. Je ne pouvais vraiment pas le laisser filer. J'aurais pu ne pas le revoir avant une vingtaine d'années, et alors j'aurais été un vieillard. Je ne sais pas exactement combien de fois j'ai manqué me faire écraser, mais j'ai entendu un concert de klaxons et de crissements de pneus. J'ai vu une voiture faire un écart pour éviter le gosse et accrocher une camionnette. J'ai entendu quelqu'un me traiter de putain de taré, un autre a gueulé « Qu'est-ce qu'il fout, bordel ?» Mais tout ça n'est qu'un bruit de fond pour moi. Toute mon attention est fixée sur le sale gosse. La récompense, vous voyez. Il court aussi vite qu'il peut. Je sais pas quel genre de monstre c'est à l'intérieur, mais en dehors, c'est qu'un mioche avec des petites jambes et un torse rondouillard, et il a aucune chance. Tout ce qu'il peut espérer, c'est qu'une voiture me renverse, mais ça se passera pas comme ça. En arrivant de l'autre côté, il trébuche sur le bord du trottoir. J'entends une bonne femme, une costaud teinte en blonde, hurler « Cet homme est armé !» C'était Madame Jane Hurley. Elle a témoigné au procès. Le gosse va pour se relever, et alors je lui fais « Ça, c'est pour Marley, espèce de petit fils de pute !» et je lui tire une balle dans le dos, balle numéro un. Il commence à ramper à quatre pattes. Il y a du sang qui goutte sur le trottoir. Je lui dis « Ça, c'est pour Vicky !» et je lui en tire une autre dans le dos, balle numéro deux. Et enfin je dis « Et ça, c'est pour papa et maman Nanny !» et je lui en colle deux derrière les genoux, juste au ras de son short gris. Numéro 3 et 4. Il y a des tas de gens qui hurlent à ce moment-là. Un type crie « Prenez-lui son flingue! Plaquez-le au sol !» Mais personne ne bouge. Le sale gosse roule sur le dos et me regarde. Quand je vois son visage, j'ai un temps d'arrêt. Il n'a plus l'air d'avoir 6 ou 7 ans. Apeuré, terrassé par la douleur, il a tout juste l'air d'en avoir 5. Son bonnet est tombé. Il gît à côté de lui. L'une des pales de l'hélice en plastique est toute tordue. Mon Dieu, je pense, j'ai tiré sur un petit enfant innocent, et il est là à mes pieds, mortellement blessé. Oui, il a bien failli m'avoir, Monsieur Bradley. C'était bien joué, digne d'un Oscar. Et puis le masque est tombé. Il pouvait faire prendre à son visage l'air aussi blessé et apeuré qu'il voulait. Ses yeux le trahissaient. Il y avait toujours cette chose dans ses yeux. Et ses yeux disaient « Tu peux pas m'arrêter. Tu m'arrêteras pas tant que j'en aurai pas fini avec toi. Et je suis loin d'en avoir fini. »« Que quelqu'un lui prenne son arme !» j'entends crier une femme. «
avant qu'il n'achève cet enfant. »
Un grand gaillard court vers moi. Je crois qu'il a témoigné aussi. Mais je braque mon revolver sur lui et il a vite fait de reculer en mettant les mains en l'air. Je me retourne vers le sale gosse et je lui tire une balle dans la poitrine en disant « Pour la petite Helen. » Balle numéro 5. Maintenant, il a du sang qui lui sort de la bouche et qui lui coule le long du menton. Mon Colt 45 était un vieux 6 coups. Il ne me restait donc plus qu'une seule balle. Je mets un genou à terre dans la mare de sang. Il était rouge, mais il aurait dû être noir, comme le liquide visqueux qui sort d'un insecte venimeux quand on l'écrase. J'applique le canon de mon Colt pile entre les deux yeux. « Et ça, c'est pour moi, » je lui dis. « Retourne de l'enfer d'où tu viens, espèce de petit enfoiré, » et je tire. Et c'est la balle numéro 6. Mais juste avant que j'appuie sur la détente, il a plongé ses petits yeux verts dans les miens. « J'en ai pas fini avec toi, » disaient ses yeux, « et j'en aurai pas fini tant que tu continueras à respirer, peut-être même que je t'attendrai de l'autre côté. » Sa tête retombe en arrière. Un pied tressaille puis se fige. Je pose mon arme près de son corps, je lève les mains en l'air et je commence à me redresser. Deux types m'empoignent avant que j'aie pu me relever complètement. L'un me flanque un coup de genou dans les parties, l'autre un coup de poing dans la figure. D'autres les rejoignent, dont Madame Hurley. Elle m'en a collé au moins deux bonnes. Elle a rien dit de ça au procès, je crois bien. Oh, je ne lui en veux pas, maître, ni aux autres. Ce qu'ils ont vu allongé sur le trottoir ce jour-là, c'était un petit garçon tellement défiguré par les balles que même sa mère ne l'aurait pas reconnu. À supposer qu'il en ait eu une. 7. McGregor emmena le client de Bradley dans les entrailles du manoir de l'aiguille pour l'appel de midi, en promettant de le ramener juste après. « Je vous rapporterai une soupe et un sandwich si vous voulez, » proposa McGregor. « Vous devez avoir faim. » Mais Bradley n'avait absolument pas faim, pas après ce qu'il venait d'entendre. Il resta assis de son côté de la séparation en plexiglas, les mains refermées sur son bloc-notes restées vierges. Il méditait sur le gâchis de certaines vies. De la ruine des deux espèces en présence, celle de Hallis était certes plus facile à accepter, car il était clair que l'homme était fou. Si, lors de son procès, il avait pris la parole et raconté cette histoire, de cette même voix raisonnable et avec une sincérité si désarmante qu'elle vous mettait au défi de la mettre en doute, Bradley était persuadé que Hallis serait à l'heure qu'il était enfermé dans l'une des deux institutions psychiatriques de haute sécurité de l'État, au lieu d'attendre ses injections successives de thiopental sodique, bromure de pancuronium et chlorure de potassium. Le cocktail létal que les détenus du manoir de l'aiguille appelaient « Bonne nuit, maman ». Mais, du moins Hallis, qui avait dû atteindre les limites de la santé mentale à la perte de son bébé, avait-il vécu la moitié d'une vie? Une moitié de vie malheureuse, certes, assaillie par des délires de persécution et des fantasmagories paranoïaques, mais, pour détourner un vieil aphorisme, faute d'une vie, on se contente de la moitié d'une. Le cas du petit garçon était nettement plus tragique. Selon le médecin légiste, l'enfant qui avait eu le tort de se trouver sur Barnum Boulevard au mauvais moment n'avait pas plus de 8 ans, plus probablement à peine 6 ou 7. On ne pouvait pas parler de vie, mais de prologue. McGregor ramena Hallis, l'attacha à sa chaise et demanda s'ils en avaient encore pour longtemps. « Il n'a pas voulu de son déjeuner, mais moi, je ne serais pas contre. »« Nous ne serons pas longs, » répondit Bradley. Pour être honnête, il n'avait qu'une seule question, et une fois Hallis installé, il la posa. « Pourquoi vous ?» Hallis haussa les sourcils. « Je vous demande pardon ?»« Ce démon, car je présume que c'est ainsi que vous le voyez, pourquoi vous a-t-il choisi, vous ?» Hallis sourit, moins un sourire qu'un simple étirement des lèvres. « Plutôt naïf comme question, non ? C'est comme si vous me demandiez pourquoi un bébé naît avec une malformation de la cornée, comme Ronnie Gibson, alors que les 50 suivants venus au monde dans le même hôpital sont parfaitement normaux. Ou pourquoi un type bien, qui a toujours mené une existence correcte, se voit frappé d'une tumeur au cerveau à l'âge de 30 ans, alors qu'un monstre qui a contribué à superviser les chambres à gaz de Dachau vivra jusqu'à 100 ans. Si vous voulez savoir pourquoi des trucs moches arrivent à des gens bien, vous avez frappé à la mauvaise porte. « T'as tiré 6 fois sur un enfant en fuite, » pensa Bradley, « et les 3 ou 4 dernières balles à bout portant. En quoi ça fait toi un type bien, pour l'amour du ciel ?»« Avant que vous partiez, » dit Hallis, « laissez-moi vous poser une question. » Bradley attendit. Est-ce que la police l'a identifié ?
Harris avait demandé ça d'un ton nonchalant, comme un prisonnier qui fait la conversation dans l'unique but de rester hors de sa cellule un peu plus longtemps. Mais pour la première fois depuis que cette longue visite avait commencé, ses yeux brillaient d'un regain de vie et d'intérêt.
« Je n'en ai pas la certitude, » répondit Bradley prudemment. Mais il savait très bien que non.
Il disposait d'une source dans le bureau du procureur qui lui aurait communiqué le nom et l'origine de l'enfant bien avant que les journaux ne s'en emparent et ne les publient, comme ils étaient bien sûr impatients de le faire. Le petit inconnu assassiné était un fait divers d'une touchante humanité qui avait bénéficié d'une couverture nationale. Ces quatre derniers mois, l'intérêt pour cette histoire était un peu retombé, mais l'exécution de Harris ne manquerait pas de le raviver.
« Je vous dirais bien de réfléchir à ça, » dit Harris. « Mais ai-je vraiment besoin de le faire ?»«
Vous y avez déjà réfléchi. Pas au point d'en faire des insomnies, mais oui, vous y avez réfléchi. »
Bradley ne dit rien.
Cette fois, le sourire de Harris était large et sincère.
« Je sais bien que vous ne croyez pas un traître mot de ce que je vous ai raconté. Et après tout, qui pourrait vous blâmer, hein ?»
Mais faites marcher votre cerveau bien huilé juste une minute. C'était un enfant blanc de sexe masculin. Quand cette catégorie d'enfants vient à disparaître dans une société qui place encore la vie d'un enfant blanc mâle au-dessus de toutes les autres, tous les services de recherche sont mobilisés. On relève les empreintes digitales des tout-petits dès leur entrée à l'école de nos jours. Ça facilite l'identification en cas de disparition, d'assassinat ou d'enlèvement. Je pense même que c'est une loi dans notre État. Ou bien je me trompe ?
« Vous ne vous trompez pas, » répondit Bradley avec réticence. « Mais vous auriez tort d'y accorder trop d'importance, George. Cet enfant est tout simplement passé à travers les mailles du filet. Ça arrive. Le système n'est pas infaillible. »
Le sourire de Harris s'élargit encore pour atteindre sa plénitude.
« Continuez de croire ça, Monsieur Bradley. Continuez de le croire. »
Il se tourna et fit signe à McGregor qui retira ses écouteurs et se leva.
« Fini ?»«
Oui. » Harris. Comme McGregor se penchait pour détacher ses chaînes, il se tourna de nouveau vers Bradley. Son sourire, le seul que Bradley lui eût jamais vu, avait disparu sans laisser de traces.
« Vous viendrez quand ce sera l'heure ?»«
Je serai là, » répondit Bradley. 8. Et, en effet, il était là 6 jours plus tard quand, à 11h52, les rideaux de la salle d'observation furent tirés, dévoilant la chambre d'exécution avec ses petits carreaux blancs et sa table en forme de Y. Seuls 2 autres témoins étaient présents. L'un d'eux était le père Patrick de l'église St. Andrews. Bradley s'assit au dernier rang avec lui. Le procureur était au tout premier rang, les bras croisés sur la poitrine, le regard fixé sur la pièce de l'autre côté de la vitre. Le peloton d'exécution, car c'était bien ce qu'ils étaient, songea Bradley, était en place. Il se composait de 6 membres. Tommy, le directeur de la prison, McGregor et 2 autres gardiens, 2 représentants de la profession médicale en blouse blanche. La vedette du spectacle était allongée sur la table, les bras écartés retenus par des sangles velcro. Mais lorsque les rideaux s'ouvrirent, ce fut la tenue du directeur qui attira d'abord l'attention de Bradley. Chemise bleue au col déboutonné, une allure sportive plutôt incongrue qui aurait été plus appropriée sur un terrain de golf. Avec sa ceinture abdominale et son harnais de sécurité à 3 points, George Harris semblait davantage prêt à décoller pour l'espace qu'à mourir par injection létale. À sa demande, il n'y avait pas d'aumônier, mais quand il aperçut Bradley et le père Patrick, il souleva sa main aussi haut que son poignet sanglé le lui permettait, dans un signe de reconnaissance. Le père Patrick leva la main en retour, puis se tourna vers Bradley. Son visage était livide.
« Vous avez déjà assisté à ça ?»
Bradley secoua la tête. Il avait la bouche sèche et ne se sentait pas capable de répondre d'une voix normale.
« Moi non plus. J'espère que je vais supporter. Il... »
Le père Patrick déglutit. « Il était si bon avec les enfants. Tous l'adoraient. Je n'arrive pas à y croire. Même maintenant, je n'arrive pas à y croire. »
Bradley non plus. Et pourtant, il devait bien.
Le procureur se retourna, sourcils froncés comme Moïse, bras croisés sur la poitrine.
« On se tait, messieurs !»
Harris parcourut du regard la dernière pièce qu'il habiterait jamais. Il paraissait abasourdi, comme s'il ne savait pas trop où il se trouvait ni ce qui allait se passer. Dans un geste de réconfort, McGregor posa une main sur sa poitrine. Il était 11h58. L'une des blouses blanches, un spécialiste de la transfusion, présuma Bradley, noua une sangle en caoutchouc autour de l'avant-bras droit de Hallis, puis glissa une aiguille dans ce même bras et la scotcha. L'aiguille fut reliée à un cathéter lui-même relié à un tableau de commande murale où trois voyants rouges brillaient au-dessus de trois interrupteurs. La deuxième blouse blanche se rapprocha de la console et attendit, main jointe. À présent, le seul mouvement perceptible dans la chambre d'exécution venait de Hallis, qui clignait rapidement des yeux.
« Ils ont commencé ?» chuchota le père Patrick. « Je ne vois pas. »«
Moi non plus, » chuchota Bradley.
« Peut-être, mais... »
Un déclic amplifié les fit sursauter. Le représentant légal de l'État resta aussi immobile qu'une statue. Le directeur demanda « Vous m'entendez correctement là-bas ?» Le procureur leva les deux pouces en l'air, puis recroisa les bras sur sa poitrine. Le directeur se tourna vers Hallis. « George Peter Hallis, vous avez été condamné à mort par un jury de vos pairs, une sentence approuvée par la Cour de l'État et par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. »
« Tu parles comme si on leur avait demandé leur avis, » songea Bradley.
« Auriez-vous quelque ultime déclaration à faire avant l'application de la sentence ?»
Hallis commença par secouer la tête, puis sembla changer d'avis. Il tourna les yeux vers le panneau vitré et scruta la salle d'observation.
« Bonjour, Monsieur Bradley. Je suis content que vous soyez venu. Écoutez-moi bien, d'accord ? Je ferais attention si j'étais vous. Vous êtes le seul à connaître toute l'histoire. J'aurais peut-être pas dû vous la raconter, mais il fallait que je la raconte à quelqu'un. C'était devenu un poids trop lourd à porter pour moi seul. Souvenez-vous, ça revient sous les traits d'un enfant.
« C'est bon ?» s'enquit le directeur presque jovial.
Hallis le regarda. « Attendez, encore une chose. De Dieu, c'est quoi cette chemise ?»
Toomey cligna des yeux comme si quelqu'un lui avait brusquement éclaboussé le visage d'eau froide, puis il se tourna vers le médecin.
« Prêt ?»
La blouse blanche postée près du tableau de commande fit oui de la tête. Le directeur débita encore un peu de son baratin juridique, vérifia l'horloge, fronça les sourcils. Il était 12h01. Ils étaient en retard d'une minute. Il pointa son doigt sur la blouse blanche comme un metteur en scène donnant le signal à un acteur. La blouse blanche remonta les interrupteurs et les trois voyants rouges passèrent au vert. L'interphone était toujours branché. Bradley entendit Hallis paraphraser le père Patrick.
« C'est commencé ?»
Personne ne répondit. Ça n'avait pas d'importance. Ses yeux se fermèrent. Il émit un bruit de ronflement. Une minute s'écoula. Une autre respiration longue et éraillée, puis deux, puis quatre. Plus de ronflement, plus de mouvement. Bradley regarda autour de lui. Le père Patrick avait disparu. 9. Le vent froid de la prairie soufflait quand Bradley quitta le manoir de l'aiguille. Il ferma son manteau et inspira à longue bouffée, tâchant de faire entrer le maximum d'air dans ses poumons et le plus vite possible. Ce n'était pas l'exécution à proprement parler. À l'exception de la chemise bleue du directeur, la procédure avait semblé aussi banale qu'un vaccin contre le tétanos ou le zona. C'était précisément là qu'était l'horreur de la chose. Du coin de l'œil, il vit quelque chose bouger dans la basse-cour où les condamnés faisaient leur promenade. Sauf qu'aujourd'hui, il était censé n'y avoir personne dehors. Les promenades étaient annulées les jours d'exécution. McGregor le lui avait dit, et en effet, quand il tourna la tête, la basse-cour était vide. Bradley pensa « Ça revient sous les traits d'un enfant » et il se mit à rire. Il se faisait rire lui-même. C'était rien qu'un bon coup de frousse bien mérité, un point c'est tout. Et comme pour se le prouver, il frissonna. La vieille Volvo du père Patrick était partie. Il ne restait plus que sa voiture dans le petit parking visiteur adjacent au manoir de l'aiguille. Bradley fit quelques pas dans cette direction, puis se retourna brusquement vers la basse-cour, l'ourlet de son par-dessus lui battant les genoux.
Personne. Bien sûr que non, bon Dieu.
George Hallis était fou, et même si son sale gosse avait existé, il était mort maintenant. Plus que mort, avec 6 balles de Colt 45 dans la peau.
Bradley se remit en marche, mais quand il arriva à la hauteur du capot de sa voiture, il s'arrêta de nouveau. Une vilaine rayure courait sur toute la longueur de sa Ford, du pare-choc avant au feu arrière gauche. Quelqu'un lui avait rayé sa voiture d'un coup de clé.
Dans une prison de haute sécurité,
où l'on devait passer trois murs et autant de postes de contrôle, quelqu'un lui avait rayé sa voiture. Bradley pensa d'abord au procureur qui était resté assis là sans broncher, les bras croisés sur la poitrine, incarnation de la piété ostentatoire. Mais cette idée n'avait pas la moindre logique. Le procureur avait eu ce qu'il voulait après tout. Il avait assisté à la mort de George Halas. Bradley ouvrit sa portière qu'il n'avait pas pris la peine de verrouiller. On était dans une prison, que diable, et resta cloué sur place pendant quelques secondes. Puis, comme commandé par une force extérieure, sa main monta lentement à sa bouche et se plaqua dessus. Là, posé sur le siège du conducteur, il y avait un bonnet avec une hélice en plastique sur le dessus. L'une des deux pales était tordue. Il se pencha enfin et le ramassa, pincé entre deux doigts, comme George Halas naguère. Bradley le retourna. Un mot avait été glissé à l'intérieur. Les lettres, de traviole et toutes serrées, penchaient vers la droite, une écriture enfantine. « Garde-le, j'en ai un autre !» Il entendit un rire d'enfant, vif et enjoué. Il regarda en direction de la basse-cour, mais elle était toujours vide. Il retourna le mot. Un autre message, encore plus bref, y figurait. « À bientôt !» Pour Russ Dore.